Alors, dans le cas de la danse, il est sûr que les choses sont un peu plus complexes, parce que j'ai parlé tout à l'heure de peinture. C'est vrai que les peintures s'écaillent, les statues s'effritent, les images s'effacent. On parlera tout à l'heure des notations en danse. Les notations en danse sont des choses très fragiles. Les traces, et en particulier les traces du crayon sur le papier, s'effacent très très vite. Je dirais qu'une notation en danse est encore plus fragile que la trace, est encore plus fragile que l'objet dont elle est la trace. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que le mouvement, lui, en revanche, est quelque chose de très très fort, bien qu'on ait toujours tendance à le considérer comme de l'éphémère. Mais ceci dit, les œuvres chorégraphiques appartiennent à ce type d'œuvres qui ne correspondent pas à un objet précis. Le philosophe de l'art américain Nelson Goodman, qui a écrit un livre très important qui s'appelle The Language of Art, fait la distinction entre les œuvres qu'il appelle autographes, c'est-à-dire qui sont entièrement constitutives de leur matière, comme un tableau, une statue, l'œuvre est en elle-même, et les œuvres qu'il appelle allographes, c'est-à-dire qui n'existent qu'à partir du moment où un interprète lui donne corps. Et donc, le travail, l'œuvre, qu'elle soit musicale, théâtrale ou chorégraphique, n'existe que dans et par l'interprétation. C'est-à-dire que ces œuvres n'existent pas tant que l'interprétation n'est pas là. Et pourtant, elles existent. Alors, quel type de nature, quel type d'existence? Et c'est cette fameuse existence de l'œuvre à travers le temps qui pourtant demeure comme un espèce de gisement de sens et d'imaginaire, sans être incarné dans une matière précise. Et c'est ça qui fait à la fois la magie et le caractère très insaisissable de l'œuvre. Je ne dis pas sa fragilité, parce que je crois que ce fameux gisement, ce champ flottant, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre chorégraphique? C'est quelque chose qui flotte, qui n'a pas de matière intérieure, qui correspond à une mémoire, on va voir tout à l'heure, mais cette mémoire n'est pas directement visible. C'est une question de visibilité de cette mémoire. Et elle existe très très profondément, mais sans donner des stigmates mnésiques, je dirais. Et pourtant, cette œuvre existe. C'est une œuvre totalement qui a son identité, qui a sa construction, qui a son élan, qui a tout ce qui fait la caractéristique de l'œuvre d'art. Alors, je dirais que c'est aussi justement cette virtualité qui demande une interprétation pour exister, qui fait la force de ces œuvres. Parce que c'est leur pouvoir à perdurer et à se transformer à travers le temps. Et là, je parle du grand temps, je ne parle pas seulement du temps des 15 ans qui peuvent séparer la création d'une œuvre avec sa reprise, mais qui peuvent perdurer dans le temps parce qu'au fond, puisqu'elles existent à travers les interprètes, la survie de l'œuvre, elle existe dans l'histoire avec la succession des corps et la succession des interprétations. Ici, je voudrais revenir sur l'idée que justement, cette force à exister n'est pas séparable de la force à transformer, à se transformer. Et c'est là qu'intervient ce fameux travail de la mémoire. Et ce travail de la mémoire n'est pas un travail homogène, c'est un travail qui fonctionne par palier, par perte. Il y a un très très beau livre de Michel de Certeau, qui est un philosophe et un psychanalyste, et qui traite justement de la mémoire et de l'histoire, et en même temps de la psychanalyse d'ailleurs, la psychanalyse étant aussi une recherche de la mémoire profonde de l'être. Et il rappelle le travail de l'oubli. Il n'aime pas séparer la mémoire de l'oubli. Je pense encore à Dominique Dupuis qui avait intitulé un de ses colloques à Arles en 1989, La mémoire et l'oubli. Mais la mémoire et l'oubli sont liés. Et Michel de Certeau parle du travail de l'oubli, du travail de perte que fait l'oubli. Ce travail étant absolument indispensable. Et il ne pense pas que ni la mémoire ni l'oubli, comme il dit, la mémoire n'est pas une accumulation mnésique figée. La mémoire, dit-il, et ça je pense que c'est très important, c'est lorsque la mémoire, dit-il, c'est le retour de l'oublié. C'est-à-dire que l'oubli a fait son travail, et puis tout à coup, la mémoire est presque quelque chose qui va percer le travail de l'oubli, qui va revenir. Et c'est quelque chose que les danseurs connaissent très très bien. ce travail de sélection qui ne prend pas le passé comme un bloc. Le passé, d'ailleurs, n'existe pas. Le passé n'existe pas plus que la mémoire, pas plus que l'inconscient. Ce sont des choses qui reviennent par faille. C'est justement dans ce sens de la mémoire comme retour de l'oublié que travaille la mémoire de la danse. Et je voudrais ici parler justement de ce que c'est que la mémoire des danses, la mémoire de la danse, et aussi la mémoire des danseurs. J'aimerais me référer au fameux livre de Leroy Gourhan, qui est un grand préhistorien, La mémoire et les rythmes. Les rythmes ayant beaucoup à faire avec la mémoire des corps, on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce qui marque, qu'est-ce qui sillonne un corps. Et signaler que Leroy Gourhan parle de la mémoire comme un des grands principes de l'humanité, une des choses qui fondent l'humanité, mais dit-il, la mémoire est une expansion. Et il parle de la première cellule mnésique, qui est une cellule mnésique qui est interne à l'espèce. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une espèce génétique, il y a des systèmes de mémoire. L'humanité commence quand ces systèmes de mémoire sortent, vont au dehors, s'installent comme systèmes de relations et ne sont pas seulement ce qu'un individu appartenant à une espèce hérite de son espèce. C'est-à-dire que la mémoire va d'abord à l'individu et puis surtout, elle va passer entre les individus. La mémoire est un acte de relation. Alors, dans une société à tradition orale qui ignore l'écriture, la mémoire va se propager d'individu à individu à travers toutes sortes de systèmes mnémotechniques comme les adages, les proverbes, les préceptes, les canons, les régulations, les règles, etc., qui sont toutes sortes d'éléments de mémoire qui se tissent à l'intérieur du groupe. Et puis au fur et à mesure que les sociétés évoluent, pas forcément vers le progrès, mais disons par exemple qu'il y a un moment où arrive l'écriture, alors là, la mémoire est complètement sortie. Et aujourd'hui, cette écriture et tous ces systèmes d'archivage, on le sait, sont des techniques pour nous délivrer de la mémoire. Une fois qu'on sait que c'est écrit quelque part ou que c'est enregistré sur un ordinateur ou dans une vidéocassette, on n'a plus besoin de se souvenir. Ce que nous appelons les techniques de mémoire sont des techniques d'oubli. C'est-à-dire que nous, ça nous permet d'oublier. Et je crois que la danse est une des rares activités qui conservent la mémoire intérieure, justement, qui résistent par rapport au travail de l'oubli. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que les relais secondaires de la mémoire légitiment une perte de la mémoire du corps et de la mémoire intérieure. D'où l'importance de cette mémoire de la danse et l'importance de la mémoire du danseur. Bon, toutes les gens qui font de la danse savent, je pars sur un plan tout à fait primaire, combien la mémoire du mouvement est importante pour le danseur. Combien le danseur est quelqu'un qu'on juge, en particulier l'interprète, il est souvent évalué, entre autres, pas seulement pour ça, mais il est souvent évalué à sa faculté de mémoire. Cette faculté de mémoire veut dire quelque chose. C'est pas seulement une performance que de se rappeler très très vite un enchaînement. C'est aussi le comment le corps intègre et qu'est-ce qu'il intègre, justement. Alors, je dirais que tout à l'heure, en parlant avec Odile et puis Bernard et Dominique, ils m'ont beaucoup ému en parlant des danses qui leur revenaient, les danses qui reviennent. C'est pas aller chercher la danse, c'est la danse qui vient vous chercher, justement. Ils ont parlé de danse indélébile. Je crois que cette idée de danse indélébile est très forte. Il y a quelque chose qui ne s'effacera jamais dans le corps. C'est ce retour incessant du mouvement. C'est pourquoi je parle de la force du mouvement. La force du mouvement à s'imprimer. Alors, que cette force du mouvement à s'imprimer soit permanente ou qu'elle soit soumise et légiférée en quelque sorte à des critères sociaux, artistiques, propres à des époques, fait aussi que cette indélébilité n'est pas totale et que forcément au cours de différentes époques de l'humanité, il y a des sélections très fortes qui vont jouer et qui vont sélectionner certaines figures en oublier d'autres. Et c'est justement l'idée que la danse est ce devenir, qu'elle se travaille justement à travers cela. Alors très très vite, dans l'histoire de la danse, les danseurs, et là je voudrais revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Marie-Claire, à savoir que les danseurs se sont dotés d'outils de préservation et qu'ils se sont dotés eux-mêmes d'outils de préservation. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été, et ça dans la mémoire de la danse et des danseurs, je dirais dans la mémoire des danseurs, c'est tout à fait remarquable de voir qu'ils n'ont jamais été cherchés dans un fond de signes préexistants des éléments qui pourraient leur servir à préserver leur danse. Ça commence à la Renaissance, parce qu'à la Renaissance, les danseurs s'aperçoivent que ce qui a été dansé autrefois est oublié, et que la danse est un devenir, et qu'à des certains moments, il faut rappeler que c'est un devenir, que dans l'évolution, il y a des choses à marquer. Et aussi qu'à un moment donné, aussi un monsieur, qui s'appelait, je ne sais pas, du nom d'un maître à danser de l'époque, a créé une œuvre. Et donc, il est bon que cette œuvre soit préservée. On avait déjà parlé au moment où l'exposition des écritures de la danse était ici présentée à l'Est. Et je crois que c'est un immense travail que cette épopée des notations en danse. La difficulté pour les danseurs ayant été de trouver des signes qui puissent être pertinents pour transcrire quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Alors vous savez que c'est peut-être un des plus grands efforts de l'esprit humain que d'arriver à trouver ces signes, vu que les signes dans l'ensemble des sociétés et dans l'ensemble des cultures sont toujours soumis à la grille d'interprétation verbale. C'est-à-dire que le lecteur du signe sera toujours un être verbalisé, littéralisé, lecteur à travers le mot. La difficulté des notateurs en danse et ce qu'ils ont réussi admirablement à faire dès le XVIIe siècle, ça a été de trouver des signes lisibles par le corps, c'est-à-dire des signes qui s'adressent à un corps lecteur. Et c'est ce corps, la notation en danse s'adresse aux danseurs. Elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle ne s'adresse qu'à celui qui va mettre encore le signe. Or, il a fallu justement trouver des signes qui étaient relevants par rapport aux propos et qui surtout se dégagent de la gangue du verbal. Chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité, comme effort d'échapper à un certain, aux grilles habituelles de signification. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous avons beaucoup parlé de cela au moment de l'exposition, mais je dirais qu'à côté des notations, il y a, à côté, bien avant les notations même, il y a une autre voie de transmission, et qui est pour moi la plus importante, qui est que non seulement il y a un corps lecteur, mais il y a un corps émetteur, c'est-à-dire que le mouvement, sa qualité, son sens, sa raison d'être, se transmettent uniquement de corps à corps. Et ceci, c'est quelque chose qui remet en jeu, évidemment, la notion même d'interprète. Interpréter, ce n'est pas seulement interpréter au moment de la création, comme on peut croire, ce n'est pas seulement devenir le médium vis-à-vis d'un autre, du propos d'une œuvre, mais c'est aussi en être le témoin. C'est aussi en être le passeur. C'est justement ce passeur qui va jouer dans l'histoire, dans cette transmission de corps à corps. Et c'est ce rôle d'ailleurs que aujourd'hui, à côté de moi, en particulier les danseurs qui appartiennent à cette association qui s'appelle maintenant les Carniers Bagoué, se proposent de jouer ce rôle de passeur. Je pense que ce rôle de passeur ici dépasse presque le simple propos de la transmission de l'œuvre de Dominique Bagoué. En se posant le problème de cette transmission, il pose le problème de toute transmission, de toute passation. Il y a bien entendu d'autres systèmes, toujours ces systèmes secondaires de la mémoire, comme par exemple la vidéo, sur laquelle on va revenir pas assez, mais la vidéo donne plutôt, je dirais, la mémoire de l'œuvre. Pas tellement la mémoire du mouvement ni la mémoire de l'acte. C'est la mémoire de l'œuvre, même s'il y a des éléments d'acte qui peuvent rester dans la vidéo. Tout à l'heure, j'ai cité un tout petit bout de la phrase de Caroline Brown, mais je reviens là-dessus en disant, elle disait, les danses restent toujours au-delà de l'objectif de la caméra et de la plume.